Je suis Barbara Varin, communicante et chef d'entreprise, et Raconte-moi ton métier, c'est la nouvelle chronique mensuelle dédiée à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs sur FM+. Et bonjour à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année pour une nouvelle édition justement de Raconte-moi ton métier. Avec aujourd'hui un invité de choix, Nicolas Dulion. Alors merci Nicolas déjà d'avoir répondu présent à notre invitation.
Toujours un plaisir.
Alors merci beaucoup. Et Nathalie Bouly, figure emblématique de la station, sera à mes côtés pour mener cette interview. Une fois n'est pas coutume.
Mais je suis ravie, mais c'est toi qui mènes. Mais je suis ravie surtout de retrouver Nicolas parce qu'on s'était vu dans les anciens locaux.
Plaisir partagé.
Vraiment, avec il y avait encore Rija qui était là avec ses dreads. Avait passé une matinée très sympa avec plein de jeunes. Avais comblé de cadeaux, de mugs, de petites choses de l'espace entreprise et que tu as renouvelé cette fois-ci. On te remercie de toujours être disponible et surtout aussi pédagogue avec la jeunesse. Vraiment, merci beaucoup.
Et justement, Nicolas Dulion est le directeur gérant de l'espace entreprise à Montpellier et Cassenot, donc un lieu dynamique dédié à l'accompagnement, l'hébergement, la domiciliation, au réseautage et à l'intelligence collective des acteurs économiques de la région, on peut dire, entre autres casquettes. Alors, Nicolas, pour commencer, même si j'ai spoilé, qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter avec vos mots, vos propres mots, en quelques mots, s'il vous plaît ?
Alors, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? C'est une question, justement, qui avait eu des vœux de fin d'année d'une personne qu'on connaît bien, de Florian. Qui êtes-vous ? Je dirais, je suis une personne qui aime transmettre et qui aime partager ses passions. Comme ça, au moins, parce qu'on ne m'a pas demandé quel est mon métier. On m'a demandé qui êtes-vous.
C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu, donné quelques éléments de réponse. Exactement.
Faire du lien aussi, Nicolas.
Voilà, faire du lien. C'est pour ça que depuis toujours, j'aime connecter les personnes, faire en sorte qu'elles travaillent ensemble, qu'elles avancent. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la promotion de notre territoire. On a un super beau territoire qui est Montpellier. Faire en sorte que les personnes d'ici travaillent des personnes d'ici pour qu'on s'enrichisse mutuellement les uns les autres. Et ça, c'est ce qui anime ce que je fais professionnellement.
C'est vraiment une qualité, je trouve, de savoir faire du lien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Ça nécessite des qualités humaines, justement, de pas tirer la couverture à soi, de savoir qu'on est là, d'être déjà heureux d'avoir fait du lien entre deux personnes, sans forcément toujours en retirer un profit pour soi-même. C'est pas toujours, il y a beaucoup de gens qui aiment briller, font du lien pour se mettre en avant. C'est pas du tout le propos ni la personnalité de Nicolas.
Et oui,
ça, je trouve ça vraiment à noter.
Merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir. En tout cas, depuis toujours, ça me fait plaisir de pouvoir faire en sorte que les personnes partagent, échangent, puissent avancer dans leur structure, dans leur société, dans leur projet et d'essayer à les mettre en contact avec d'autres personnes qui pourront leur être utiles.
Alors justement, Nicolas, professionnellement tout de même, désolé, moi j'ai un focus très pro, je rabaisse le niveau.
C'est plus qui je suis alors, on veut plus savoir.
Non. Justement, vous êtes à la tête de l'espace entreprise à Montpellier. Donc je crois qu'il y a deux sites distincts, vous nous en direz davantage si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous définiriez ce lieu ? Quel rôle joue-t-il ? On a quand même compris, on a quelques éléments de réponse, mais quel rôle joue-t-il dans l'écosystème local, s'il vous plaît ?
La genèse de l'espace entreprise, c'est un peu variabiliser les charges fixes, c'est-à-dire trop souvent, les entrepreneurs qu'on rencontre croient qu'il faut des bureaux, il faut beaucoup de charges fixes pour créer une société. Alors que, en commençant par exemple avec une domiciliation, c'est-à-dire uniquement le siège d'un endroit professionnel qui est chez nous, par exemple, on a pratiquement 1300 sociétés maintenant qui ont leur siège. C'est-à-dire, pour avoir une proportion sur la circonscription de Montpellier, Lunel 7, on représente 3% des entreprises du territoire.
Oui.
Et donc, crois qu'il faut beaucoup de charges fixes pour démarrer, alors que, avec une simple domiciliation qui coûte une trentaine d'euros, ils peuvent mettre leur siège dans un endroit pro, avoir une vraie adresse, commencer leur activité, lancer, et au fur et à mesure qu'ils encaissent du chiffre d'affaires, que leur société progresse, alors ils peuvent mettre des dépenses. C'est-à-dire, pas inverser le process, c'est-à-dire, on ne commence pas par les dépenses et après on va regarder les recettes, on met minimum de charges. Et au fur et à mesure de croissance de la société, après ils peuvent louer un bureau un jour, on peut leur mettre une plaque sur le bureau pour donner toujours une bonne impression, parce que c'est toujours difficile quand on démarre, on est jeune, de donner une bonne impression. Et on a le premier rendez-vous, on peut faire en sorte que le client se sentent comme si la personne était là. C'est aussi pour ça que, par exemple, des fois, certains le mettent chez eux. Mais chez eux, maintenant, en 3 secondes, le client va sur Google Maps. Il voit que c'est un appartement, une maison, tout ça. Il y a une réticence. Il a perdu le client, il l'a même pas vu. Et donc, on permet à beaucoup de personnes d'avoir un endroit pro, ou même il y a un espace coworking gratuit où ils viennent, ils prennent un café, ils se posent, ils rencontrent d'autres entrepreneurs. Démarrer léger au niveau de la création de société. Après, bien sûr, il y a des bureaux. Bien sûr, on a 10 salles de réunion. On a des locaux d'activité. Comme j'ai dit, il y a un restaurant, il y a une crèche. Après, mais ça, c'est autre chose. C'est, on grossit au fur et à mesure. Oui, il y a aussi une crèche à Gare au Sud.
Ça, je l'ignorais. Oui.
Et donc, c'est un lieu de vie. Qui est ouvert de l'espace coworking est ouvert de 8h à 18h tous les jours, où ils peuvent permettre d'échanger. Ils viennent, ils prennent un café. S'ils veulent rester le midi, ils mangent, parce que ça fait aussi restaurant. On fait aussi des séminaires. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs de démarrer léger et de faire grossir leur charge en même temps que leur chiffre d'affaires, afin qu'ils durent le plus longtemps possible. Souvent, on a des personnes qui veulent des bureaux. Ils finissent à prendre une domiciliation parce qu'on préfère que la personne soit là pendant 2-3 ans plutôt que lui prendre un bureau et il va rester 3 mois, il va liquider et on ne l'aura plus. Parce que le banquier, si vous avez plus de trésorerie au début, ben il ne vous prêtera pas d'argent. Les découverts, le banquier n'est pas là pour financer du découvert. Et donc, ce creux du démarrage, eh ben, ils risquent de le louper parce qu'ils ont fait ça. À la base, moi, je suis un peu expertise comptable dans les formations initiales. Voilà, moi, j'ai fait maîtrise VDSS gestion et expertise comptable. Et donc, j'ai cette notion de gestion et de l'importance de la flexibilité. Et pour l'anecdote, c'était mon stage de fin d'études, la création de mes sociétés. Donc, je connais bien la problématique de démarrer avec pas grand-chose et de variabiliser les charges fixes. Et au fur et à mesure, on fait grossir.
Et oui, et puis c'est justement un gage de crédibilité, hein, vous l'avez dit Nicolas, le fait d'avoir une adresse dans un lieu vraiment reconnu comme étant voilà,
professionnel.
Professionnel,
parce que sinon on va perdre des clients, on ne s'en rend même pas compte, plus la CFE qui est moins chère, etc. Parce que nous c'est juste un mètre carré, enfin voilà, il y a plein d'éléments qui font que, en fin de compte, c'est beaucoup mieux d'être domicilié que aller chez soi ou prendre des bureaux, etc.
Même il y a des bureaux, je crois, qui sont en plus à des loyers très 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 accessibles entre guillemets, bien sûr, hein, mais par rapport au marché en tout cas.
Voilà. Alors si on part de la genèse totale aussi du projet, quand je l'ai fait en 2008, le premier, j'ai commencé le projet en 2006. J'étais assez jeune d'ailleurs. Et du coup, c'était parce que les centres d'affaires et les coworking de l'époque avaient des bureaux très chers, c'est-à-dire un bureau 15 mètres, ça valait 1000 euros. Je trouvais ça, moi, à ce prix-là, j'ai dit, j'irai pas. Et j'ai construit tout le projet dans l'autre sens. J'ai trouvé un terrain, j'ai fait construire un immeuble pour que je puisse tenir le prix que je m'étais fixé comme maximal. À l'époque, c'était 350 euros, entre 350 et 400. Et donc, du coup, j'ai tout construit le projet pour arriver à tenir. Et les autres sont chers parce qu'ils ne sont pas pleins. À 1000 euros, ils ne sont pas pleins. C'est un peu comme les avions. Et nous, on a fait j'ai fait le pari inverse. C'est parce que j'ai des prix humains auxquels, à titre personnel, j'irai que les personnes vont venir. Et c'est parce que je suis plein que je peux tenir ces prix.
Et le restaurant, un bon restaurant, il est plein s'il fait un menu à 20 balles, moins s'il est à 40.
C'est ça.
Et oui, le taux d'occupation, le taux de réservation.
C'est ça, en enlevant certains éléments qui ne sont pas indispensables, mais en centrant sur l'utilité, l'internet, la propreté, l'efficacité et moins de froufrou.
Excuse-moi Barbara, mais le premier immeuble, c'est celui qu'on connaît quand on est le long de l'autoroute là,
Non. Le premier est derrière Dell, c'est l'espace entreprise millénaire qui est derrière Dell, où c'est un immeuble qui fait 1000 mètres carrés et qui est uniquement de bureaux.
D'accord. Et justement, il y a deux sites, hein, c'est ça, c'est Nicolas ? Donc, ce premier site dont vous parlez, et le second à Gare au Cygne. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux sites, s'il vous plaît ?
Après avoir fait le premier, j'ai aussi une partie agence immobilière en immobilier entreprise, et je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique sur les artisans et leur capacité à avoir des baux flexibles, comme on fait sur les bureaux, avec des services. Rien n'existait sur ce sujet. Et donc, j'ai cherché à construire un nouveau parc. qui permettait d'avoir des bureaux, des salles de réunion, un lieu de vie qui était le restaurant, mais aussi des locaux d'activité pour les artisans en contrat flexible, c'est-à-dire ben, un peu comme un centre de coworking. Ce n'est pas un bail 369, c'est un contrat où ils peuvent partir beaucoup plus, de manière beaucoup plus flexible. Et en même temps, avec des services, il y a l'accueil, réception de colis, réception de palettes, on a des gerbeurs à disposition, il y a le copieur qui peut être connecté directement à leur ordinateur, l'internet est là, l'électricité, l'eau, ils arrivent, c'est du plug and play. Ils travaillent dans leur activité et du coup, ça a rencontré un succès parce que il y a rien qui leur est proposé.
Mental en moins, surtout quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ils se concentrent sur leur métier. Si jamais il y a une palette qui arrive, eh ben on va leur mettre dans leur local et il vient le soir, il charge sa palette pour le lendemain matin. Il n'a pas à attendre que le livreur qui va venir, pas venir, il a perdu une journée de travail et son temps a de la valeur. Et ce temps administratif, c'est nous qui le prenons à sa place.
Oui, donc en fait, vous ciblez, si je puis dire, tout autant les entreprises donc du tertiaire et donc de l'industrie, ou en tout cas les artisans. Vraiment, c'est multi-activité. D'accord. Alors, vous parliez également de cet espace de coworking. En général, les espaces de coworking sont payants. Comment ça fonctionne, s'il vous plaît, concernant votre concept?
Disons que le coworking, après, c'est un mot qui a été un peu dévoyé ou qui a été un peu... maintenant, le coworking, par exemple, si on prend les plus gros WeWork, etc., 90% c'est des bureaux privatifs et 10% des bureaux partagés. Voilà. Et donc maintenant, le terme coworking s'adresse aussi aux bureaux fermés, mais ce qu'on appelait avant centre d'affaires. On a aussi du coworking avec des locations qui peuvent être un jour par semaine, deux jours par semaine, mais privatifs. Et on a aussi le coworking réel où les personnes travaillent ensemble sur une table en commun ou plusieurs tables et ils sont dans le même espace. Voilà. On a cette partie-là qui se trouve dans le restaurant de l'espace entreprise qui est ouvert de 8h à 18h toute la semaine. Et donc là, ce qu'on a mis en place, parce que maintenant le coworking, c'est un produit, le coworking pur, hein, c'est un produit qui est plus compliqué dans le sens où on peut trouver des endroits où se poser. Nous, l'avantage, c'est que c'est un endroit pro où les personnes viennent se poser, elles prennent un café, elles restent la matinée. Si elles veulent rester entre midi et deux, elles mangent au resto, elles reprennent un café l'après-midi et travaillent là. Globalement, ça a coûté deux cafés et un repas, ils passent la journée. Quoi.
Et c'est très bon, je tiens à le dire.
Et notre chef est extraordinaire, Manu, que je salue, et qui fait tout fait maison.
Oui. Oui,
voilà, il est adorable. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez quand vous voulez. Il se fera un plaisir de vous servir, de vous montrer.
C'est vrai que c'est bien de redéfinir le coworking parce qu'on dirait presque maintenant aller prendre un thé à. Là où on fait des cafés où on met son nom sur l'étiquette là.
C'est ça, Starbucks.
Voilà. Oui, voilà. Que quasiment Starbucks est un espace de coworking. Non, c'est pas ça.
Ouais,
voilà,
c'est
donc
ça.
Faut remettre un petit peu expliquer que c'est aussi un métier.
Oui, tout à fait.
À la base,
tout
c'est un métier, voilà, et c'est vrai que tout ce métier a grandement évolué, et donc c'est vrai que le restaurant fait partie de l'activité. Et pour l'anecdote, quand on parle de spécificité, nous on a une démarche RSE aussi. Par exemple, au restaurant. Tous les déchets organiques du restaurant sont donnés à 6 poules. On a aussi 6 poules à l'espace entreprise Gare au Sud qui mangent tous les déchets. Et après, celui qui s'occupe des poules garde les œufs pour lui et on fait ce qu'il veut. Voilà. C'est un peu notre façon de faire moins de déchets.
Ça, franchement, ça, c'est le cercle vertueux de l'entrepreneuriat comme on l'aime. Alors, chaque second jeudi du mois, Nicolas, vous organisez aussi le Pitch Elevator. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept, s'il vous plaît?
Le pitch elevator, le principe est de convaincre une personne le temps d'une montée d'ascenseur. Donc, le temps d'une montée d'ascenseur, ça dure à peu près une minute.
À quel étage?
À quel étage? Voilà, faut bien choisir l'étage. S'il n'y a qu'un étage, faut être très très rapide ou faut parler très très vite, quoi. Et donc, en une minute, arriver à convaincre l'interlocuteur que l'on a en face. Et donc, on a fait ça fait un exercice qui permet aux personnes de progresser sur cet exercice et en travaillant l'accroche, parce que l'accroche, c'est le plus important. Comme dit Marc Simoncini, si on n'a pas accroché dans les 20 premières secondes, tout le reste ne sert à rien. Donc, globalement, une minute, c'est très long. Les 20 premières secondes suffisent à ce que votre interlocuteur accroche ou pas. Et si on met plus d'une minute, de toute façon, étant donné que les personnes retiennent 10% à 20% de ce qu'on leur dit, quels sont les 10 à 20% d'éléments qu'il va retenir si vous durez 5 minutes? il y a plus de chances qu'ils retiennent ce que vous voulez si vous le dites en une minute.
Tout à fait.
Donc, c'est un vrai exercice et c'est vraiment génial. Moi, je fais le Club LR depuis 15 ans. Et de voir la progression des personnes, l'engagement, le fait de grandir sur l'exercice pitch. Et comme je leur dis aussi, ça permet de, le fait de pitcher ici, enlever certains freins, grandir, progresser, parce que si on ne s'entraîne jamais, on ne progresse pas. Et grâce à cet exercice pitch, ils peuvent éventuellement réussir d'autres pitches avec des personnes beaucoup plus importantes, des banquiers, des investisseurs, des fournisseurs, parce qu'ils ont enlevé ces freins ici à un endroit où, entre guillemets, il y a moins d'impact. Et en plus, c'est filmé, ils peuvent le revoir après.
Et c'est ludique, parce que pour l'avoir vécu, c'est ludique. Donc on s'inscrit, on prend un numéro, on est tiré au sort, on y va, on rencontre plein de gens. Il y a des fous rires, hein, parce qu'il y a des gens qui se plantent.
Oui, mais c'est comme un karaoké. C'est bienveillant.
C'est très bienveillant.
Et bienveillant, ça c'est vraiment le plus important pour moi, c'est que ce soit bienveillant, on passe tous un bon moment, c'est familial. On n'est pas dans un endroit pro où on est guindé, où on va pas se sentir bien. L'idée, c'est un peu
On se marre, hein, faut le dire.
Ah mais j'acquiesce.
D'ailleurs, quand ils viennent à la maison, quoi.
La dernière édition était pas mal à ce niveau-là aussi.
Ouais, non, ça c'est génial de vraiment faire ça et de pouvoir avancer sur cet exercice.
Très bien. Alors merci Nicolas, on va bien sûr vous retrouver dans la seconde partie de l'émission, mais on va faire une petite pause, une petite pause musicale avec une musique. Alors quelle est-elle, s'il vous plaît? Je crois que vous en avez choisi deux. Alors oui, allez-y. Alors laquelle va passer? Ça, je crois que c'est notre voilà.
Ouais, Titanium.
Okay.
Ah mais Titanium.
Merci.
Titanium.
On en profite pour remercier Tom.
Merci Tom. Titanium, voilà, c'est parce que moi je suis très musique électro, etc. C'est ce qui me plaît.
Et plein de surprises, Nicolas Dulion.
Ouais, non, j'adore ça. Moi, je suis un hyperactif et donc c'est des musiques qui me correspondent. Et Titanium, j'aime l'énergie qu'elle dégage et en plus les souvenirs. J'ai été avec mon frère à Ibiza, tout. Donc on a été voir le concert. Donc c'est vraiment un beau moment.
Donc dans 30 secondes, on danse tous.
Hein. Ah, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti, on va en station. You shot it. We'll be right back. Et on se retrouve pour la seconde moitié de Raconte-moi ton métier avec Nicolas Dulion, directeur gérant de l'espace entreprise à Montpellier et Castelnau. Entre autres casquettes, hein, comme on l'a dit. Alors Nicolas, vous nous avez parlé notamment du pitch elevator, du concept en effet, hein, qui régit, si je puis dire, les deux sites à Gare au Sud et à Castelnau. Maintenant, si vous le voulez bien, revenons un petit peu à vos débuts, entre guillemets. Quelle a été votre trajectoire professionnelle avant de diriger l'espace entreprise, s'il vous plaît?
Il l'a dit un peu.
Oui, j'ai commencé
un peu avant.
Ah, il t'a excusé ta question.
Peu, non, mais j'en ai un peu parlé, mais j'ai pas tout dit quand même. J'ai pas tout dit, j'en ai gardé quand même un peu. C'est vrai que moi, à la base, je suis un entrepreneur, un explorateur. Qui aime explorer divers écosystèmes. Et ce que j'aime dire aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme votre vie amoureuse. Ben, peut-être la première personne que vous allez rencontrer, c'est pas forcément la bonne. Et savoir ce qu'on aime, il faut découvrir divers endroits, diverses personnes, diverses activités pour trouver celle qui nous correspond le mieux. Moi, j'ai créé diverses sociétés, sauf une, qui a eu un arrêt. Et des fois, un arrêt, c'est une bonne chose.
Ça peut ne pas être grave.
Et ça peut, voilà, j'ai planté aucun fournisseur, mais j'ai quand même arrêté la société, etc. Et c'était une bonne chose de savoir arrêter. Et aussi, savoir s'arrêter, c'est aussi être un bon entrepreneur. Parce que des fois, ça s'accrochait trop longtemps, on peut aller plus loin. Moi, j'ai créé ma première société en... Je ne sais pas si je dis l'année, parce que beaucoup ici...
Allez, comme il fait très jeune homme, il n'a pas d'âge, Nicolas.
C'est ça.
J'arrive pas à lui donner un âge.
Il a cet avantage.
On va le topper.
C'est gentil. C'est très, très flatteur. Merci beaucoup.
Alors, donc, c'était quelle année?
Alors, en 1999, j'ai créé ma première société, qui était un site, à l'époque, d'objets publicitaires et qui permettait de faire directement les maquettes en ligne et les reconstituer automatiquement en vectoriel pour les utiliser en imprimerie. Il y avait des films, il y avait des choses comme ça à l'époque, un temps que les moins de 40 ans ne connaissent pas. C'était une autre époque, c'était vraiment génial. C'était une époque où on rêvait. C'était l'époque où on avait gagné la Coupe du Monde de foot, les personnes avaient une idée, dit tiens, on va faire de la livraison de glaçons, ils faisaient une société, etc. Voilà, c'était une belle époque où on a vécu de bons moments, objets publicitaires, j'ai cherché une levée de fonds, etc. Bon, la société après existe toujours, et maintenant, sauf que sur Internet, c'est Omnipub, une société d'objets publicitaires. Après, j'ai fait aussi un journal d'annonces légales dans le Gard, le Gard Eco, avec un autre ami avec qui j'étais en classe. Et après, j'ai fait... diverses sociétés.
Vous aviez quoi, entre 20 et 25 ans?
Voilà, j'avais 24 ans.
Ah oui, oui.
23.
Dans les années 75-80.
Et c'est ça. Quelles expériences? On dirait qu'il a 90 ans. Mais non. L'allure d'un jeune homme. Et l'âge aussi, quand même, il n'est pas si vieux. Mais il a commencé très jeune, surtout.
J'avais commencé assez jeune parce que j'aime entreprendre. Moi, ce que j'aime, je suis un créateur, je suis un entrepreneur, je ne suis pas un manager. Moi, j'aime partir d'une feuille blanche et faire des activités. Donc, j'ai continué un peu comme ça sur diverses activités. J'ai fait des sites internet aussi, document.fr, convention.fr, qui maintenant marche très bien. Si vous allez dessus, vous allez sur document.fr ou convention.fr, vous pourrez voir. C'est une société qui marche super bien, où il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dedans, etc. Et après, je suis rentré dans tout ce qui est centre d'affaires en 2000, j'ai commencé en 2005 l'idée, parce que j'ai aussi travaillé à la région Languedoc-Roussillon à l'époque, en consultant, où j'étais sur les aides et appuis à la création d'entreprises. Ouais. Et du coup, j'aime la création d'entreprise, j'aime les entrepreneurs, j'aime tout cet écosystème. Et j'ai construit le premier centre d'affaires en 2008 et après, plus une agence immobilière en immobilier d'entreprise. Et petit à petit, je me suis concentré sur cette activité parce que c'est celle qui me correspondait le mieux sur le côté lien. Les clients directs, c'est un peu, je sais pas, ma passion première, c'est-à-dire aller vendre avec une valise, c'est pas ce que je préfère. L'internet peut être sympa aussi parce que ça permet de développer. Je me suis régalé, j'ai fait beaucoup de sites internet. Je fais des sites internet, une qui s'appelait citation.fr où je recensais plus de 1000 citations pour les entrepreneurs.
Vous êtes multipotentiel. Enfin, c'est vraiment dans des. Il y a un dénominateur commun, il y a une cohérence, mais
Toujours vous avez vraiment des. Mais j'adore ça. Moi, j'adore entreprendre, j'adore créer, j'adore partir d'une feuille blanche. Et c'est pour ça que quand j'ai construit les immeubles de l'espace entreprise, Eh bien, je suis parti d'un terrain vague.
Oui.
Et ben, j'ai tout construit.
C'était audacieux.
Avec zéro client, avec tout. Surtout en 2008, j'avais quand même des moyens très limités. Avoir réussi à le monter sans avoir forcément d'associé ni rien et tout, c'était quand même une belle
performance.
Un beau challenge, on va dire. Un beau challenge, et je me suis régalé, j'ai passé de très bons moments et j'ai appris des métiers. Est-ce que si je dois faire passer un message à toutes les personnes, surtout les jeunes, mais maintenant même les moins jeunes, ne pas se mettre des limites avec des choses qu'on ne sait pas faire. Moi, chaque fois que j'ai fait quelque chose, je ne savais rien faire avant de commencer à le faire. Et par exemple, quand j'ai fait objet publicitaire, imprimerie, je connaissais rien à l'infographie, je connaissais rien à rien. Et j'ai lancé quand même, en me cherchant avec des personnes aussi qui peuvent m'aider. Après, quand j'ai fait le journal d'annonce légale, je connais rien au journalisme. Je connaissais, en plus, c'était dans le Gard. C'était pas du Gard, c'était de l'Hérault. Enfin, voilà. Quand j'ai fait construire les immeubles, j'avais jamais construit d'immeuble. Je connaissais rien à la domiciliation. Je connaissais rien à l'immobilier entreprise. Enfin, et maintenant, vous avez la chance qu'on n'avait pas à l'époque d'avoir des outils qui peuvent vous permettre d'apprendre très rapidement. Avec Internet, avec YouTube, vous avez tout. Et vous avez des profs qui peuvent être meilleurs que même dans certains cours. Il faut aller chercher les meilleurs du monde, aller chercher partout. Moi, une anecdote que j'aime bien donner, j'ai fait beaucoup de prix à la création d'entreprise. Et un de mes parrains, j'ai eu le prix Jacques Douce sur les innovations, sur la communication. Oui. Et mon parrain était le fondateur de Boursorama. On a passé quelques minutes à discuter et lui me disait, tiens, j'ai trouvé un petit logiciel, parce qu'il était un peu pirate. Il faut être un pirate quand on crée un peu. Il me dit, j'ai trouvé un logiciel qui permet d'aspirer des emails, tout ça et tout. Il dit, ah ouais, putain, super. Donc, j'ai cherché un peu partout. J'ai trouvé un logiciel comme ça au Canada. Et du coup, j'avais téléchargé des milliers d'emails. À l'époque, c'était un peu l'Internet, c'était un peu Far West. Et du coup, j'avais trouvé un logiciel.
C'était légal à
l'époque. Ouais, voilà, mais c'est 100% légal. Un logiciel, un SMTP qui permettait de faire les envois. Et j'ai envoyé des 500 000 emails avec une connexion WANADOO à... Enfin, Orange à 30 euros, quoi.
Ah oui, oui.
Ah, donc c'était pirate, quoi. Mais voilà, mais simplement, maintenant, le monde a changé. C'est plus les emails, c'est d'autres choses. Mais cherchez à innover, à chercher, posez-vous des questions. Ne vous contentez pas de ChatGPT, va vous donner ce que tout le monde sait. Mais allez creusez-vous la tête et vous trouverez beaucoup de solutions. Et vous allez vous régaler. Vraiment, c'est top.
Après, je ne veux pas squeezer tes questions.
Non, Barbara,
mais il y a une chose sur laquelle, si on réinvite Nicolas, j'aimerais qu'il m'en dise plus. C'est se dire, moi, le management, pas plus que ça, quoi. Alors que moi, j'ai une passion pour le management. Et forcément, il y a une façon aussi de manager. Pour moi, presque, ça va faire hurler les profs, ce que je dis, mais presque tenir une classe, c'est aussi manager une classe. Quoi.
Il y a plein
de rapports humains qui sont de ce que j'ai appris sur le management. Donc, je vous réinviterai, Nicolas, pour vous parler aussi de votre rapport au management. Parce que c'est aussi, dans les 1300 entreprises qui logent chez vous, c'est aussi, on sait qu'il y a des errances en ce moment dans l'entrepreneuriat.
Oui.
Parce qu'il y a des errances managériales aussi.
Sans saper le moral.
Là, dans les 1300 personnes, il y a plein aussi, bien sûr, de jeunes créateurs d'entreprises, mais qui vont être amenés à faire du management. On est tous amenés à en faire.
Non, c'est certain. Le management, on est tous amenés à le faire. Mais moi, si je dois, je donne quelques cours à la fac aussi un peu. Mais je trouve ce qui manque en voyant mes enfants et les écoles, etc. C'est la culture entrepreneuriale. Notre pays, je trouve, ne met pas assez en avant qu'entreprendre, c'est bien. Créer, c'est bien. Faire des choses nouvelles, c'est bien. Et se remettre en question, c'est bien aussi. On cherche trop à rester sur des acquis alors que ça devrait être un challenge de se dire « c'est génial, je vais apprendre de nouvelles choses. C'est génial, maintenant l'IA va faire des choses bêtes que je faisais avant, je vais pouvoir élargir mon champ de compétences. » Et de sortir de sa zone de confort, on ne nous l'apprend pas assez. Et un livre que je trouve qui devrait être lu par toutes les personnes, les jeunes surtout, c'est « Père riche, père pauvre » de... je ne vais pas dire son nom parce que je vais l'écorcher, parce qu'il est de... c'est un Américain qui est d'Hawaï, donc son nom, je vais le...
Voilà. Père riche, père pauvre.
Père riche, père pauvre, qui explique la manière de gérer son argent, la manière dont on devient plus riche ou... c'est vraiment un élément que j'ai offert à mes enfants pour qu'ils aient une base de culture financière.
Oui.
Ce qui manque vraiment, c'est la base de la culture financière.
Oui.
Et qu'on n'attende pas tout du système.
Mm-hmm. Oui, oui, bien sûr.
Alors, c'est un livre d'un homme qui a un nom impossible,
c'est
qui
ça.
Est d'origine asiatique
voilà.
D'ailleurs.
C'est ça.
Robert T. Kiyosaki. Bah, ça aurait été un japonais d'origine,
voilà.
Pas loin.
Robert T. Kiyosaki. Mm-hmm. Et vraiment, vous pouvez aussi trouver des podcasts pour ceux qui n'aiment pas lire. Et vous pouvez le regarder et ça va vous ouvrir l'idée et l'esprit sur comment dans 30 ans vous pourrez être plus autonome financièrement que ce que vous l'êtes actuellement.
Et de manière, je dirais, aussi décomplexée, parce qu'on a des fois cette vision d'entrepreneuriat un peu comme si c'était une fosse au lion. Alors, il ne faut pas être bisounours non plus, mais
oui.
On peut vraiment croître tout en faisant évoluer. Alors, je crois que c'est vraiment votre philosophie, hein, de toute façon,
ah,
Nicolas.
Oui, non,
les autres, et cette synergie gagnant-gagnant, et ça n'est pas galvaudé quand on dit ça. Alors, bon, je ne veux pas mettre plomber l'ambiance du tout, mais ça ne vous aura pas échappé. On connaît une situation de crise. Alors, de crise économique, crise politique. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais tout de même, beaucoup d'entreprises semblent touchées. Quel est, vous, votre regard sur cette situation face aux transformations donc actuelles de l'économie? Quel rôle un lieu comme le vôtre peut-il jouer aussi dans l'accompagnement des dirigeants?
Oui, oui, donc dans l'accompagnement des dirigeants, je trouve les entreprises, maintenant, on est dans une phase de mutation. C'est-à-dire, avant, on pouvait avoir des cycles de produits, de vie des entreprises, qui pouvaient durer 3, 6 ans. Maintenant, ça a commencé un peu avec le Covid plus l'Ukraine. Notre durée de vie d'un produit, d'une entreprise, on ne sait pas forcément ce qu'on va devenir dans 6 mois, 1 an. En plus, en moins, on a moins de visibilité qu'on avait préalablement. Et c'est là où des outils, c'est-à-dire comme nos bureaux, où les personnes peuvent partir avec 2 mois de préavis, apportent ou peuvent prendre un bureau de plus pour 2 mois quand il y a un projet qui arrive, etc. C'est du Lego qui correspond beaucoup mieux aux nouveaux usages de ce que sont les entreprises et de ce qu'est le marché et ce qu'est la vie actuellement. Donc quand on s'engage, il faut savoir que dans les entreprises, d'habitude, on s'engage pour un bail 3, 6, 9, c'est-à-dire 3 ans, 6 ans, 9 ans.
Et oui.
Et on doit donner son préavis 6 mois avant la fin des 3 ans, sinon on est engagé pour 3 ans de plus. C'est des modes de gestion qui sont plus adaptés au monde actuel. Nous, c'est 2 mois de préavis par quand il veut. Donc ça fait partie des éléments pour s'adapter aux évolutions et aux changements du monde. Alors après, les entreprises, oui, c'est plus compliqué pour certaines. Certaines arrivent à s'adapter, d'autres pas. Et c'est là où le management est plus agile, plus flexible. Moi, j'ai même des sociétés qui ont arrêté leur bureau, par exemple des personnes qui font de l'intérim, qui ont tout arrêté. Ils avaient un local commercial, etc. Ils ont tout arrêté. Ils n'ont pris qu'une domiciliation. Le temps de se remplumer, entre guillemets. Et quand ça ira mieux, ils repartiront, ils reprendront un bureau, un local, etc. C'est une période qui permet de se centrer sur l'essentiel, réduire au maximum ses charges.
D'accord. Et par rapport à vous, est-ce que vous l'observez concrètement? Vous nous avez cité en effet cet exemple d'agence d'intérim, mais au niveau volume, si je puis dire, au niveau, vous ressentez un peu cette crainte de la part des entrepreneurs que vous hébergez?
Oui, 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 on sent quand même une crainte. C'est-à-dire que les entrepreneurs, sans être anxieux, les entrepreneurs, maintenant, savent, étant donné qu'ils savent depuis quelques événements politiques, ne savent pas trop qu'est-ce qui va leur arriver demain. On va leur mettre des taxes en plus, donc du coup, ils ne font rien, ils ne bougent plus, ils ne décident plus. Et du coup, ne décidant pas, par exemple, les bureaux, ils en prennent un peu moins. Nous, on va très bien, on n'a pas de sujet sur les éléments, mais quand même, il y a le fait d'attendre. D'attendre quoi? Ils ne savent pas, parce que personne ne sait ce qu'on attend d'ailleurs. Mais
si on attend les élections, c'est quand même dans un an passé.
C'est ça.
Hein.
Oui, c'est ça. Oui, alors oui, peut-être oui. C'est ça qu'ils attendent.
Mais c'est long.
C'est long, ouais.
C'est long pour un entrepreneur.
C'est très long. Voilà, donc c'est vrai que ça fait partie des éléments un peu plus compliqués.
D'accord. Alors cette émission touche à sa fin. Il nous reste encore une ou deux minutes. Est-ce que vous avez un mot de la fin, je dirais, Nicolas?
Oui, donc déjà pour le
un
mot
message,
de la fin,
oui, peut-être éventuellement.
Message, un message. Donc déjà, j'invite tous les futurs entrepreneurs, personnes qui ont des projets à venir gratuitement au Club LR. Venir présenter leurs projets, venir s'immerger dans le monde entrepreneurial, venir voir que le monde entrepreneurial, c'est aussi fait pour vous. Vous êtes comme nous et on a envie de vous voir avec nous. Donc, Vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Ça se passe tous les deuxièmes jeudis du mois à l'espace entreprise Gare au Sud. Vous venez, vous découvrez avec nous, vous buvez un verre et comme ça, on va partager ensemble. C'est toujours un plaisir d'être là pour les entrepreneurs et pour les personnes qui ont envie d'être entrepreneurs de leur vie.
Et on passe un beau moment.
Oui,
un très
oui,
bon moment.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à
on
fait.
Y va, on peut y aller parler, on peut aussi ne pas y aller. C'est un peu.
On peut ne pas parler.
On peut pitcher
voilà.
si on est vraiment trop. Voilà. Mais bon, on est. Voilà. On,
c'est
on
pas une obligation.
Même si, voilà, même si on n'avait pas cette intention, enfin, pour ma part, j'y suis également allée. Et ben, en fait, on y va, on se sent vraiment attiré, entraîné par cette.
Il y a beaucoup de monde, je sais pas, moi, j'ai vu, il y avait au moins 80 personnes. Ah c'est on frise souvent les 100 personnes quand même.
Ah ouais, donc c'est un très beau moment et vous êtes vraiment tous les bienvenus.
Oui. Alors, je crois qu'il y a aussi la nuit du pitch. Vous pouvez nous en parler brièvement.
Voilà, nuit du pitch, c'est un autre événement que j'organise avec mon ami Bruno Chomerac de Dinabaï, où on réunit 310 chefs d'entreprise à l'espace Latara à Latte. On pitch format tour de table. C'est un endroit, c'est un moment exceptionnel qui a lieu une fois par an. Et donc, pareil, tous les entrepreneurs sont les bienvenus. Inscription sur lanuitdupitch.fr.
Ok, super. Ben, merci. Merci encore, Nicolas Dulion, pour votre présence. Merci, Nat, d'avoir.
Merci, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Mais on ne vous lâche pas comme ça.
Mais non, ah non, ça, on ne va pas vous
lâcher. Voilà, on ne vous lâche pas comme ça. Maintenant, il y en a deux qui sont, Barbara et moi. Donc, on va venir avec les petits micros et on va tout enregistrer.
Avec grand plaisir.
Super. Merci beaucoup, en tout cas.
Bon, on va se quitter sur une dernière. Avec plaisir. Merci à toi, Nat. On va se quitter donc sur un dernier morceau donc, de musique choisie par Nicolas Dulion, qui est, s'il vous plaît, Nicolas.
Alors le nom exact, je me souviens plus exactement. C'est K-pop, Golden de K-pop, voilà.
Okay.
Le nom de la chanson, c'est Golden. Ben, je trouvais ça sympa parce que c'est un titre actuel et je trouve en tant que entrepreneur, il faut toujours se remettre en question et s'adapter à ce qui plaît aux personnes actuelles. Et moi, j'adore à chaque fois évoluer en même temps que le monde évolue et je trouve que c'est un symbole de ça parce qu'actuellement, c'est les jeunes qui écoutent plutôt cette musique et donc. Moi, elle me plaît et je trouve qu'elle est pleine d'énergie et d'espoir sur le futur.
Ah ben, ça vous va bien, ça nous va bien. Allez, let's go. Merci Nicolas, à très bientôt, à très vite. I was a ghost, I was alone, to a gin. Keep so good. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? I'm done hiding now. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born.